Bon, ça commence timidement à se connecter, mais est-ce qu'on va avoir du monde suite au match? Alors, il y a ceux qui terminent de regarder Rennes-Auxerre, et voilà, après, suite au résultat, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde, mais en tout cas, il y aura certainement du monde en podcast. Bon, et puis après, dimanche 19h, on comprend aussi que tout le monde n'ait pas la possibilité de venir. On va faire 1 heure de space. Et voilà, on va essayer à la fin de laisser une dizaine de minutes pour faire un petit point avec Morgane sur d'autres petites choses qui ont à voir avec le FC Nantes, mais rien à voir avec le match pour le coup. Voilà, on y reviendra vers 19h45, 19h50 à peu près. Bon, du coup, re-Morgane aussi.
Re-Emeric.
Du coup, on parlait avec Jean-Charles, on disait que finalement, l'analyse du match va pas forcément prendre énormément de temps, mais par contre, tout ce qu'il y a à dire derrière, là, ça risque de prendre un peu plus de temps. Jean-Charles, ben justement, vas-y, dis-nous toi ce que tu as pensé de ce match. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que ce soir, on repart avec 0 points et une défaite 3-2?
Bon, après, la défaite n'est pas illogique en soi. Hein. Malgré moi, ce qui m'a... sur l'analyse du match, pour répondre à ta question, ouais, défaite pas illogique, dans le sens où ils ont été plus entreprenants que nous, hein, ça c'est clair. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas capitalisé sur l'ouverture du score, quoi, parce que on ouvre la marque très tôt. On pensait que ça a peut-être été trop beau à la rigueur, et puis on s'est un peu effondré derrière. Puisque je mettais sur Twitter tout à l'heure, ouais, effectivement, y a, pour moi, dans l'analyse globale, il y a deux faits de jeu. Il y a le Ganago. Alors moi, il faudrait qu'on m'explique sur cet hors-jeu, hein, parce que c'est au millimètre, encore une fois. Quand on voit le but de Gigot à l'OM hier, tu peux être dubitatif, mais bon, bref. Puis il y a la frappe de Guessant aussi, on peut revenir au vestiaire à 2-1. Puis cette deuxième mi-temps, on est totalement absent. Moi, l'analyse que j'en fais après, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que on n'a pas assez pianoté sur le banc, je pense. Et puis moi, Giroto, encore une fois, je l'ai trouvé un peu perdu sur ce poste de milieu de terrain. Et c'est le fait qu'il ne veuille pas faire jouer Doucet ou un autre, mais il ne faut plus le faire jouer à ce poste-là parce qu'il a été un peu à contre-temps, je trouve.
Ouais, c'est vrai que je parlais de Giroto moi au milieu de terrain, et finalement on passera tout à l'heure on parlera des tops et des flops, donc essaye de pas trop en dire, comme ça on y reviendra dessus.
Ouais, sans être flop, hein, c'est vraiment par rapport à la position. Enfin moi c'est pas une question de flop, hein, mais Giroto c'est plus son poste en fait, hein, il me semble. Et enfin notamment sur la faute du coup franc là qu'on leur offre, En défenseur central, cette faute, je le vois pas la faire en fait.
Oui, sûrement. T'as peut-être raison. Et effectivement, moi, j'ai pas aimé la prestation de Giroto effectivement cet après-midi. Morgane, toi, ouais, comment t'as vécu ce match?
Ben en fait, malheureusement, tout ce que j'avais dit en avant-match s'est passé. C'est-à-dire que il y a eu une défense compacte et on a fait beaucoup trop de centres qui ont rien donné. Ça a rien donné, sauf sur le but de Ganago, qui était très bien placé au premier poteau, mais là c'était sur un corner. Beaucoup de cafouillage aux abords de la surface. Du coup, bon bah, ils ont eu 20 000 occasions. Il y a même une occasion qui est improbable où ils tirent, je crois, à peu près 6-7 fois d'affilée. Et on n'arrive pas à dégager le ballon. Enfin, ça, c'est. Voilà. Pour moi, la défense à 4 sur cette rencontre, je l'avais dit avant le match, pour moi, ça n'allait pas. Il y avait beaucoup trop d'espace. J'ai aussi parlé de Giroto. Je le préférais en défense, plus solide pour des rencontres comme ça qu'en milieu de terrain. Et là, il a été en milieu de terrain, ça ne l'a pas fait. Et moi, ce qui m'avait marqué dans le space d'avant-match, on a dit que Lorient allait s'effondrer. On les a clairement sous-estimés. On s'est fait clairement punir. Aujourd'hui, ils sont 4e de Ligue 1. Et j'ai beaucoup aimé la réflexion qu'a dit un des animateurs là de Amazon Prime Video. Il a dit Lorient, ils sont plus qu'un tube de l'été. C'est-à-dire que comme Saint-Étienne avait pu faire il y a quelques années en étant premier de Ligue 1 pendant quelques matchs. Là, c'est pas le cas. Je veux dire, quand t'enchaînes autant de victoires, c'est il y a aussi quelque chose derrière. Après, moi, il y a un truc. Qui m'a marqué, on a fait beaucoup de fautes bêtes, beaucoup de déchets dans les passes. Alors est-ce que c'est un synonyme de fatigue? Est-ce que c'est pas l'égalisation qui a cassé un peu les jambes derrière et que du coup on avait moins confiance, etc. En fait, il y a un truc qu'a dit Moussa Sissoko en interview d'après-match, il a dit « On avait réussi à mettre ce premier but et on pense que ça va nous libérer, sauf que derrière, on se fait réégaliser juste après. » Et ça, c'est l'erreur bête. Et je pense que l'erreur du match, elle est là. Ils ont fait l'erreur bête que beaucoup font dans les matchs du football, se faire égaliser juste après. On le sait très bien, dans les 5 à 10 minutes après un but, c'est là où il y a le plus de chances de t'en prendre un. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont relâchés à ce moment-là où ils ont laissé plus d'ouverture, où ils ont été moins précis dans leur passe parce que ça y est, ils avaient des ailes, ils étaient contents, ils avaient marqué, etc. Et derrière, on laisse passer l'attaquant. Moussa Sissoko le dit sur la faute de Giroto qui amène au coup franc et le but. Il explique que le gars n'a pas... je ne sais plus qui le... Comment il s'appelle le joueur.
Ouattara.
Celui qui traverse le terrain. Il traverse le terrain jusqu'à dribbler tout le monde et se faire... et Giroto lui fait une faute. Non, Sissoko dit en interview, on aurait dû le bloquer avant. Et on, c'est, il ne devrait pas y avoir faute ici, en fait. Donc voilà, ils ont laissé trop d'espace. Et je pense que l'erreur, elle est là. Après l'effet de jeu, je rejoins Jean-Charles. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Après, je n'ai pas la vision. Parce que comme par hasard, la télévision, ils te mettent un angle. Enfin, faut comprendre comment est l'angle pour que ça marche, etc. Mais franchement, leur jeu, il est pas. Encore une fois, on se fait avoir. Je vais pas reparler du match contre le PSG, mais voilà, c'est pas la première fois cette saison. Et évidemment, s'il y a demain le match dans les têtes, il est totalement différent. Donc voilà. Après, moi, je pars du principe que dans la vie, faut faire avec l'arbitrage. Il est pareil pour tout le monde entre guillemets, et que si on était vraiment bon, on en aurait planté d'autres et on serait pas mis autant en danger. Là, je pense que sur la défense, il y avait un vrai problème. Sur le mental, il y avait un vrai problème. Et c'est l'accumulation de plein de petites choses qui ont fait que la défaite, elle est logique cet après-midi et que là, putain, il va falloir chercher des points, hein, parce que même si Sissoko, il a dit que c'était le championnat était encore long et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, moi, perso, je m'inquiète. Hein, mais bon, voilà.
Ouais. Jean-Charles, tu voulais réagir à ça ?
T'as raison, Morgane. Clairement, il faut en faire plus. Il y a une stat, par contre, qui m'a un peu étonné, pour revenir sur l'arbitrage. Bon, il y a 4 cartons jaunes nantais. Ça reflète un peu l'arbitrage. Je ne dis pas qu'il a influé sur le résultat final, mais j'ai trouvé qu'on était très sanctionné à la moindre petite faute. J'ai le carton de Moses Simon où il donne un coup d'épaule, carton jaune, et il y a les Lorientais qu'on fait un peu d'anti-jeu et pas de carton, quoi. Ça m'a un peu interpellé aussi.
Par rapport à ça, on fait le double de fautes de Lorient. Lorient fait 9 fautes, on en fait 17. J'ai trouvé également qu'on manquait un petit peu de discipline dans ce match. On fait des erreurs assez bêtes. Sur les 3 buts lorientais, il y en a 2, ils sont clairement pour nous. Notamment ben, la faute de Giroto, c'est une faute bête. Et là, je te rejoins, Jean-Charles. Je pense que s'il est en défense centrale, il est face au jeu et je pense qu'il ne la fait pas, cette faute. Soit dit en passant, d'ailleurs, le coup franc est magnifique. Ça, il n'y a rien à dire. La fond ne peut strictement rien faire. Ouais. Et c'est vachement bien tiré, voilà. Lorient, par contre, très discipliné, très organisé. J'ai bien aimé cette équipe lorientaise. Je trouve qu'elle fait plaisir un petit peu à voir, même si c'est pas du grand football, mais au moins c'est voilà, ils font avec leurs armes et je trouve que leurs armes sont pas si mauvaises que ça. D'ailleurs, c'est justifié par une très belle 4e place. On discutait avant le match qu'à domicile ils étaient très bons et à l'extérieur peut-être un peu moins. Sur les matchs à l'extérieur, ils vont quand même gagner à Rennes. Ils vont gagner à Ajaccio dans la difficulté, mais ils vont quand même gagner à Ajaccio. Donc moi, je trouve que cette équipe de Lorient peut effectivement... Alors je reviens sur ce que j'ai dit, parce que j'ai dit que très rapidement, elle allait revenir peut-être entre la 12e et la 14e place. Si Lorient est capable de renouveler ce genre de prestations, ben peut-être qu'effectivement, ils peuvent terminer en première partie de classement.
Donc, on va voir. Un chiffre important, Lorient l'année dernière c'est 8 victoires à la fin de la saison, ils sont déjà à 5 victoires là. Donc c'est
pour ça que
la différence
là où c'est...
Ouais,
vas-y Morgane, termine.
Et juste un chiffre qui n'a rien à voir mais qui concerne le FC Nantes. À l'extérieur, on a un vrai problème. Ça fait un moment qu'on le dit, mais là c'est encore plus flagrant. En 2022, si je ne me trompe pas, on n'a qu'une victoire à l'extérieur avec le FC Nantes. Seule victoire en 2022. Moi je trouve ça très très peu, quoi. Enfin, c'est pas mal de matchs nuls, mais c'est pas normal, quoi. À l'extérieur, on a un vrai souci, quoi.
Ouais, non, mais t'as raison. Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais. On les a peut-être sous-estimés, je suis d'accord avec toi. Mais en jouant très mal, quand même, on est pas si loin. Enfin, en jouant très mal, notamment en deuxième partie. Mais les petits facteurs, là, les centimètres de Ganago, la frappe de Guessant, on voit que tout sourit un peu plus à Lorient au niveau de la réussite sur ce match-là aussi. Hein, parce que si Guessant, on n'est pas loin du but, le Ganago, j'en ai déjà parlé. En plus, il fait une belle action, un beau double contact pour effacer le goal.
Et poteau de
blague. Donc, ce petit facteur réussite, on ne l'a pas eu. Hein.
Ouais,
Le poteau de blague. Bon, après, la réussite, on l'a eu sur le but contré de Simon 42 fois là. Là-dessus,
oui, c'est pas faux, mais ça venait un peu tard.
C'est vrai. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est la grosse interrogation. Pourquoi ? Alors, j'aimerais le savoir pourquoi. C'est peut-être moi qui comprends pas pourquoi, mais pourquoi le mur n'a pas sauté sur le coup franc ?
Ouais. Je me suis posé la question. T'as raison. Ouais.
Parce que du coup, je pense que Lafond se dit, mon mur va sauter, donc je couvre pas la lucarne gauche. Et comme le mur a pas sauté. Et le ballon est parfaitement retombé. Et du coup, il a même pas sauté à gauche, quoi. Il s'est dit.
Il n'y avait pas de bonhomme en plus allongé derrière comme font certains murs.
Ouais. Après, c'est vrai que c'est étonnant. Le comportement du mur sur ce but est assez étonnant. Je sais pas pourquoi ils ont pas sauté, parce que généralement, quand on saute pas, c'est que le coup franc est assez loin et qu'on veut pas gêner le gardien. Là, pour le coup, s'il saute, il gêne pas le gardien. Au contraire, il ferme l'angle, et donc je trouve un peu bizarre, effectivement, aussi qu'ils aient pas sauté.
Et qu'il y ait pas un mec allongé aussi derrière le mur, parce qu'on le voit de plus en plus. Hein.
Oui, ça se voit de plus en plus, effectivement. Ouais. On va parler aussi de la prestation de l'attaque, puisque c'est ce qu'on en avait parlé dans l'avant-match. L'association des trois, comment vous l'avez senti là, le Ganago en pointe, Guessant à droite et Simon à gauche.
Moi, je veux bien commencer si tu veux, Morgan. J'ai pas trouvé de réelle complémentarité. J'ai trouvé qu'ils ont joué à leur façon, un peu soliste, c'est-à-dire que pas de cohésion encore entre les trois, quoi. C'est ce que j'ai ressenti. Les trois n'ont pas été mauvais, si tu veux, mais Guessant a fait des différences, Ganago a fait des différences, et Simon aussi. Mais ils ont pas réussi à se trouver, en fait. C'est ce que je retiens de l'idée. Après, ce qui est bien, comme on disait, on avait raison sur le but de Ganago. Hein. Malheureusement, il n'en a mis qu'un. Mais bon, ouais. Ganago, c'est bien pour la confiance. Et on continue à mettre des buts, ça c'est positif. Mais ouais, il faut qu'il retravaille un peu. Comme disait Comboiré, Mohamed, Guessant arrive à se trouver. Il faudra trouver d'autres duos ou trios. Quoi.
Moi, ouais, Morgan, vas-y. Il y a une image qui m'a marqué et qui m'a beaucoup plu sur le but de Ganago. Il vient serrer dans ses bras Antoine Comboiré comme si c'était son père, quoi. Franchement, j'avais limite les larmes aux yeux. Je me dis putain, trop cool, quoi. Le mec vient d'arriver, il y a une vraie complicité. Mode merci de me faire confiance, merci de m'avoir mis titulaire. Regarde, je te récompense, coach, et je marque mon but, quoi. Tu vois. Et j'ai trouvé ça super, quoi. Il méritait de marquer son deuxième but. Concernant Guessant, je l'ai trouvé moins à l'aise que sur les précédents matchs, honnêtement. J'ai même pas d'image en tête, à part un beau centre au début du match. Il arrive à faire un beau centre de la droite, mais c'est
tout. Il y a sa frappe du gauche en fin de première mi-temps. Hein.
Ouais, moi j'ai pas trop d'image.
Détourné en corner par le gardien.
Ouais, oui, effectivement. Et Simon, pour l'instant, après il revient de blessure, hein, faut aussi le dire, hein, même contre l'Olympiakos, c'était pas trop ça. Je le sens pas encore autant débridé qu'il l'est d'habitude. Et il est moins impactant pour le moment en termes de rapidité. Et il est moins efficace, mais il faut laisser un peu de temps là. Ça y est, là il a fait un match, faut qu'il regagne un peu de confiance, je pense. Mais c'est vrai que là, même sur les 1 contre 1, les dribbles et tout ça, il n'y avait pas grand chose qui passait. C'est dommage, mais je ne vous ai pas trouvé, moi, à part Ganago, du coup, très efficace avec ce trio là, en tout cas. Après, en seconde mi-temps, on a changé totalement de dispositif, du coup, avec un triple changement, l'entrée de Blas, l'entrée de Mohamed et la sortie de Appia pour Korchia. Et là, pareil, on avait l'impression qu'il y avait un peu plus, alors c'était l'inverse, qu'il se trouvait un peu plus dans les passes. Moi, je trouvais qu'il y avait un beau ping-pong, etc. Mais que derrière, à part la belle frappe de Ludovic Blas qui finit sur le poteau, on n'arrivait pas non plus à être forcément dangereux parce que de toute façon, Lorient marchait sur l'eau, entre guillemets, tout le réussissait, donc du coup, malheureusement, on n'a pas réussi à vraiment concrétiser, à part cette frappe, je dirais toujours chanceuse de Simon, avec la passe en retrait, là, la frappe en dehors de la surface et le but. Mais ouais, je vous ai trouvé, il y a plus de complémentarité avec Mohamed Blas et qu'avec l'équipe, l'attaque de la première mi-temps. C'est mon avis, en tout cas, mon ressenti sur ce match-là.
Est-ce que j'ai une question du coup à vous poser pour terminer sur la partie offensive. Est-ce que, alors je vais utiliser des mots un petit peu forts peut-être, hein, mais le but c'est vraiment d'avoir votre avis là-dessus aussi. Et puis comme d'habitude, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent là et qui veulent participer à ce débrief, voilà, il y a le petit micro en bas à gauche. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir comme d'hab. Mostafa Mohamed, est-ce que finalement il n'est pas indispensable sur le front de cette attaque nantaise? Est-ce que ce n'est pas celui qui va chercher le plus de ballons, qui a un peu la grinta, qui a un peu la niaque et qui va faire bouger un petit peu cette attaque? Est-ce qu'il n'est pas indispensable, Mostafa Mohamed? Jean-Charles?
Si on se résume au premier quart d'heure, on va dire non, parce que Ganago a mis un but.
Ouais.
Après, oui, mais je pense qu'il avait besoin de souffler. Il avait besoin de souffler, mais ta question, à Mostafa en forme, oui, pour moi, il doit être titulaire. Après, il faut voir l'animation qui reste, mais de toute façon, on ne peut pas jouer avec 5 attaquants. Donc oui, pour moi, il a manqué aujourd'hui, notamment sur les automatismes. Mais ce que je retiendrai aussi, après, bon, c'est un autre sujet, on en débattra, mais je pense qu'il faut mettre les joueurs à leur poste de prédilection. Ce qu'on avait échangé sur l'animation offensive de manière plus générale dans le space d'avant le match, moi, je n'étais pas très chaud à avoir un 10 entre Chirivella et Sissoko, quoi. Et c'est là que il faut peut-être laisser sa chance. Moi j'étais un peu réticent peut-être aussi à Hachi. Il faut que Sissoko, Chirivella, il y en a un. J'ai pas compris leur positionnement pendant la première mi-temps. J'avais du mal à les situer en fait.
Ouais.
Ça revient à l'animation offensive. Hein.
Ouais, ouais. Morgan, bon. Toi, du coup.
Alors pour moi, ça va être très clair. Je trouve que. C'est un problème entre guillemets de nouveaux riches qu'on a, puisque je me souviens des saisons précédentes où on cherchait le moindre joueur qui pourrait nous planter des buts dans cette équipe. Et là, cette année, c'est la première année depuis un moment où je me dis, ah, on a quand même 2-3 mecs qui plantent, hein, quand même. On a Guessant, on a Mohamed, on a Ganago, on a Blas qui plante, qui transforme tout le temps ses pénaltys quand il veut. On a Giroto qui est bon de la tête, qui est bon sur coup franc également. Finalement, on a quelques mecs qui plantent et qu'on n'a pas Nicolas Palois qui nous fait une reprise de volée. Mais je veux dire, on a quand même pas mal de mecs qui plantent. Donc pour moi, le problème de l'attaque, c'est un problème de nouveaux riches. Moi, le vrai problème pour moi, c'est la défense. Et je vais rebondir un peu sur un message qu'on a reçu là en dessous du Space. Je ne sais pas si tu as des news, Emeric, concernant 111. West France avait parlé de 111 en disant que, voilà, apparemment, le FC Nantes se repositionnerait peut-être dessus, en tout cas, continuerait de s'y intéresser. Ce serait vraiment bien qu'un mec comme lui vienne au FC Nantes. On en aurait clairement besoin, là, en fait. Et c'est surtout là, pour moi, le problème actuel, hein, vraiment. Donc, je ne sais pas si tu as des news. C'est les jaunes et verts, bien plus qu'une passion qui en a parlé là sur Twitter.
Ouais, alors sur Fabien Santos, c'est ce que je disais. Alors, j'ai pas plus de nouvelles que ce que j'ai dit dans le débrief de l'Olympiakos. Moi, j'ai trouvé Quentin Merlin très emprunté physiquement. Il y a, je sais plus sur quelle occasion, je me demande même si c'est pas le troisième but, mais il revient un peu en marchant. C'est Simon qui est obligé de venir courir. Je sais plus quel but c'est, mais la frappe enroulée, la frappe enroulée.
C'est le troisième.
Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc là, il revient en marchant tranquillement. Je l'ai trouvé très bon. Après, il revient de blessure également, hein, mais il revient en marchant. Il n'avait pas la même attitude que d'habitude. Alors, est-ce que c'est parce que physiquement, il en peut plus et que lui aussi a besoin de tourner un petit peu? Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas un vrai remplaçant à Quentin Merlin. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait qu'il revienne de blessure? Je sais pas trop, mais la prestation des deux pistons, est-ce qu'elle vous a convaincu un petit peu, beaucoup ou pas du tout, Jean-Charles?
Les pistons, pourquoi c'était, on n'a pas vraiment joué en piston aujourd'hui. Hein.
Non, alors pas les pistons, pardon, les latéraux. Ouais.
Les latéraux. Non, mais moi, comme disait Morgan, moi je suis pas trop inquiet sur la défense centrale, j'entends. Parce que Palois, il a fait quand même un très bon match, hormis cette relance, bon, qui gâche un peu, on va dire, la note globale. Mais je pense qu'il a été très solide. Castelletto a fait son match. Mais bon, avec les latéraux qu'on a aujourd'hui, c'est une évidence qu'on doit jouer avec trois centraux. Quoi. Et Giroto, encore une fois, j'insiste, il faut arrêter de le mettre au milieu de terrain. Hein. C'est plus son poste. Donc s'il veut faire souffler un des trois, faudra faire appel soit à Pia pour le mettre dans l'axe, soit il fait jouer le jeune voisine. Mais on l'a bien vu à 3-1. Moi, j'ai pensé qu'à 10 minutes de la fin, il allait peut-être lâcher le morceau pour faire rentrer Doucet à chier. Bon, non, mais je pense que Koumbouaré, dans son analyse de coaching, il devra aussi intégrer le fait que il faut faire jouer, faut faire plus de rotation, parce que Merlin, effectivement, sur ce match-là, comme tu disais, hein, il est emprunté physiquement, et puis à Pia, bon, ils avaient des clients qui allaient vite ainsi en face, hein, donc ça n'a pas aidé, comme a dit Morgane, mais il a pris la marée, hein, effectivement, à Pia. Hein.
Justement, sur Denis Appia, on a une question de Gabi Gold dans les commentaires. Je vais te la poser à toi, Morgane, puisque tu, voilà, je vais te nommer un petit peu avocat de Denis Appia, parce que nous, on est un petit peu dans l'attaque.
Non, il a bien joué quand même ces derniers matchs, mais bon, sauf là.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, que c'est Morgane qui en avait parlé en premier avant qu'il ait cette petite série de bonnes prestations. La question de Gabi Gold, c'est: est-ce que vous pensez que c'est à cause de l'accumulation de matchs qu'il a raté son match, ou est-ce que c'est plutôt la fin d'une bonne série pour Denis Appia? Qu'en penses-tu, Morgane?
Moi, je sais que mentalement, c'est pour ça que je me suis toujours permis d'en parler de manière positive, mentalement, c'est vraiment un mec qui est vraiment dans l'état d'esprit d'Anton Kombouaré et de son équipe de battants, des mecs qui lâchent rien. Et je sais que même si c'est pas le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est un mec qui va se donner à fond, qui sait, même s'il a des difficultés, qu'il va travailler dur pour essayer derrière de faire des bonnes prestations. Et ça a été payant, ces dernières rencontres. Comme l'équipe, il n'était pas dans la vibes du match. En fait, à partir du moment où ils ont été, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais qu'il y a eu l'égalisation, j'ai l'impression qu'on leur a coupé les jambes à tous, en fait. C'était pas que Denis Appia, c'est tout le monde qui était plus dans le délire d'attaquer correctement. Lui aussi, il aurait dû apporter offensivement, en faisant des centres comme il avait déjà fait précédemment, ou même tenter des frappes. Mais là, personne n'était dans le mood d'attaquer. J'ai l'impression que le dispositif, en fait, je sais pas, il faudra que je me renseigne, mais je sais pas si c'était le même dispositif que contre l'Olympiakos ou contre le Paris Saint-Germain, mais en tout cas, je l'ai senti moins à l'aise sur ce dispositif-là, enfin, dans cette manière de jouer-là, que les autres rencontres. Je pense pas forcément que c'était de la fatigue, hein, parce qu'il s'est donné à fond. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il est sorti, il était très fatigué, parce qu'il est sorti en cours de match à la seconde mi-temps, remplacé par Sébastien Corcia. Honnêtement, je ne l'ai pas trouvé plus glorieux que lui, hein, sur ce poste-là. Donc, bon, moi, je pense qu'il va continuer à faire des belles choses pour la continuité de la saison, et il faut continuer à lui faire confiance. De toute façon, tant qu'on n'a pas l'arrivée d'un autre joueur, on n'a pas trop le choix que de leur faire confiance. Moi, ce que je suis sûr, c'est qu'il a une très bonne mentalité, et que le mec, il a envie, quoi. Il a envie de faire bien. Il est toujours en train de se renforcer musculairement, essayer de faire de se développer, d'être meilleur, quoi. Donc, au bout d'un moment, le travail, ça paie. Voilà, à chacun son niveau. Mais en tout cas, à son niveau, sur les dernières rencontres, c'était beau à voir, un peu mieux à voir. Et j'espère que ça va payer pour la suite encore. Faut juste psychologiquement pas lâcher, parce que c'est compliqué de perdre 3 points contre Lorient. Là, c'était pas arrivé depuis, je l'ai dit, 2013. Fait chier, quoi. Bon.
Ouais. Juste pour répondre à ta question par rapport au dispositif, alors contre le PSG, non, parce que c'était pas le même dispositif pour Denis Appia, puisqu'on jouait à 3 défenseurs centraux contre le PSG, avec du coup ces deux pistons. Contre l'Olympiakos, on jouait en 4-2-3-1 avec Moutou Sami Chirivella en milieu et Ludovic Blas en 10. Et donc là, aujourd'hui, on jouait plus un 4-3-3, ce qui s'apparente à un 4-3-3, avec Chirivella, Sissoko et Giroto au milieu de terrain. et Simon Guessant sur les ailes, Ganago dans l'axe. Donc, dans ce système-là, en tout cas, Denis Sapia, c'était la première fois qu'il passe au travers depuis l'enchaînement de ces bons matchs-là. Voilà, donc peut-être que ça, effectivement, peut-être que ça y joue aussi, quoi. Petite question aussi dans les commentaires par rapport à Pedro Chirivella. Il y a plusieurs auditeurs là qui nous parlent de la prestation de Pedro Chirivella qui a été très bon contre l'Olympiakos. Alors moi j'ai pas peur de parler de masterclass parce que c'est vrai qu'il a été vraiment dans tous ses ballons, il a été juste, il a accéléré le jeu, il a cassé des lignes avec des ballons. Vous pouvez même regarder les résumés grand format, vous allez voir qu'il y a des passes qui sont dignes des plus grands joueurs à ce poste-là, et j'ai pas peur de le dire. Est-ce que finalement, là, depuis quelques matchs, Chirivella, il n'est pas l'ombre de lui-même de l'année dernière dans ce début de saison ? Jean-Charles, qu'est-ce que tu en penses par rapport à Chirivella ?
Je rejoins ce que tu dis. Hein. Après, je pense que la pubalgie qu'il a eue a laissé des traces. Oui. Il a été très 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 fort contre l'Olympiakos. Mais bon, je vais revenir sur ce que je disais. Chirivella, c'est pas un 10. Après, vous allez peut-être m'éclairer tous les deux, mais moi, j'ai pas encore compris l'organisation du 4-3-3, quoi. Chirivella, il doit être devant la défense avec un autre joueur. C'est là où ils sont le mieux. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier un maximum de fois quand on peut le 5-3-2. Parce que, pour revenir à ce que tu disais aussi sur Appia, Appia est meilleur en latéral droit depuis ses années à Nantes. Ça a été compliqué. Il s'est relancé quand Nantes a joué à 3 derrière. À un moment donné, il était donc axe droit. Et ensuite, il est devenu piston où il a également des bonnes prédispositions pour ça. Donc, Chirivella, effectivement, on sent que physiquement, c'est un peu dur. Parce que je pense que dans l'esprit de Kumbuari, c'est un des derniers joueurs qui doit sortir à chaque fois. Mais s'il le sort à la 60e, c'est pas anodin, quoi.
Alors, pour répondre à ta question, ce système-là, tel qu'il est mis en place, c'est Giroto en vrai milieu défensif. Voilà, juste devant la défense et qui sert de balayeuse un petit peu là, dans ce rôle-là. Moussa Sissoko, c'est plus, ben, comme je le disais dans l'avant-match, c'est plus un box-to-box, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va venir défendre en situation défensive et qui va apporter un surnombre devant en situation offensive, qui pour moi d'ailleurs n'a pas très bien fait ni offensivement ni défensivement sur ce match-là. Et puis Chirivella, c'est plus un meneur de jeu en retrait, c'est-à-dire pas quelqu'un qui va se projeter vers l'avant, mais qui par une passe rapide vers l'avant, que ce soit un long ballon ou que ce soit une passe au sol, un peu forte, un peu appuyée, hein. C'est lui qui va dynamiser le jeu, un peu accélérer le jeu. Et après, bon, les trois de devant sont des ailiers plutôt intérieurs qui vont avoir le but de rentrer. Et Ganago qui est attaquant de pointe, quoi.
Non, t'as raison sur ton analyse, hein, mais encore une fois, moi, je le trouve meilleur, peut-être pas en 6, mais on va dire en 8, un peu plus proche de la défense. Je le trouve, il a contre-emploi quand il est trop haut, à mon sens.
Ouais
Morgan. Après, moi, tu vois, je vais dire un truc qui peut paraître très très bête, mais si nous trois, là, par exemple, qui parlons ici dans le space, on arrive à se rendre compte de ça, je pense que les mecs dont c'est le métier et qui font ça toute la journée, ils s'en rendent compte aussi. Et c'est pour ça que je suis pas très inquiet, puisqu'ils vont prendre les bonnes décisions par la suite, parce que on fait des erreurs, on a fait aujourd'hui, et ils vont tout faire pour que ces erreurs ne se reproduisent plus par la suite, et ils se rendent compte de tel mec est meilleur à tel endroit, à tel poste. Et voilà, ils sont je sais pas combien sur le banc à observer tout ça, donc ils prendront meilleures dispositions.
Je vais juste faire un petit commentaire sur ce que tu dis. Je suis totalement d'accord avec toi. Le seul problème, c'est que si à un moment donné il doit bouger son système, enfin il veut garder le même système et c'est pour mettre un jeune, c'est là que sera le bémol. Et je sais pas s'il ira. Je pense qu'il préférera mettre un joueur peut-être avec un poste à plus contre nature plutôt que de faire rentrer un Hachi aujourd'hui, peut-être qu'aurait été une solution intéressante en 10 pour alimenter et que chacun soit vraiment dans son bon rôle, quoi.
Ouais, et puis les jeunes là, il a un ballon, il rate sa passe, quoi. Putain, du coup il marque pas des points,
on peut pas lui en vouloir,
parce que... Non, on peut pas lui en vouloir, c'est sûr, mais dans la tête de Kumbuari, je veux dire, parce que nous, on ne l'en veut pas, évidemment, mais il dit, putain, le mec, je le fais rentrer, même si c'est pour une seconde, c'était pour gagner du temps sur le changement, pour qu'on refasse une dernière contre-attaque, il rate sa passe pour Simon. Je dis, oh putain, pourquoi il rate ? Ça fait chier.
Oui, mais la raison pour laquelle Kumbuari l'a fait rentrer, il voulait pas le faire rentrer, c'était juste pour rajouter 30 secondes au temps.
D'ailleurs, ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, ouais.
Mais les deux minutes, d'ailleurs, sont un peu scandaleuses d'arrêt de jeu, c'est lamentable.
Oui, oui, ouais. D'ailleurs, oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais ça rajoute rien au côté, de l'arbitrage. Oui. Il y a eu 9 changements. 9 changements, normalement, c'est 30 secondes par changement. Donc, je vous laisse faire le calcul. Normalement, on n'est pas à 2 minutes. Hein. On est déjà, rien qu'avec le changement, on est un petit peu au-delà. Donc, moi aussi, j'ai trouvé ça un petit peu limite. Quoi. Après, je voulais aussi revenir sur une chose par rapport au dispositif. Et s'il y a des supporters lorientais, ça va être un compliment. Donc, profitez-en parce que je vais complimenter pendant une minute Lorient, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs. Il y a un truc, moi, que j'ai trouvé super de la part de Lorient, c'est que peut-être, je sais pas si vous avez fait attention, mais si vous avez pas fait attention, regardez quelques passages du match si ça vous intéresse, le côté tactique. En fait, les joueurs lorientais, en situation défensive, quand on récupérait le ballon, ils se reculaient toujours de 2-3 mètres systématiquement de nos joueurs. C'est-à-dire qu'ils venaient pas bloquer Simon ou Guessant à la culotte, comme on dit. C'était pas un marquage à la culotte, c'était 2-3 mètres derrière. Et je trouve ça que c'est très intelligent de faire ça, parce qu'on a un système de jeu avec des passes rapides vers l'avant. Si jamais on bloque ça, c'est-à-dire que Simon, Guessant ou Ganago ne peuvent pas faire d'appel en profondeur parce qu'ils ont déjà 2-3 mètres de retard, mais finalement, derrière, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on n'est pas capable de créer forcément du mouvement de manière un petit peu arrêtée, ou en tout cas, quand Simon n'est pas lancé en profondeur ou quoi. Vous voyez ce que, enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais j'ai trouvé que Lorient, là, ça le faisait très bien, quoi, ce décrochage un petit peu. Alors, je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut
Oui, tu as raison. J'ai trouvé qu'ils étaient très compacts aussi. Peut-être plus que nous, d'ailleurs. Il y avait moins d'écart entre le premier défenseur et leur attaquant.
Ils ont bien bossé sur Nantes avant le match. Hein. Ils ont bien analysé les choses. Je pense que oui, effectivement, ils avaient vu nos faiblesses et ils ont bien analysé le truc. Donc effectivement, et le côté compact, surtout niveau défensif. Moi, je l'avais dit qu'on allait centrer comme des bœufs et que ça allait rien donner. Et c'est ce qui s'est passé, à part sur le magnifique corner de Merlin où au premier poteau ils ont décidé. Et c'est un choix de Lorient de pas prendre au premier poteau. Et du coup, bah Ganago, c'était tout bénef pour lui, quoi. Mais encore une fois, je trouve qu'on balance trop, des centres par-ci par-là et qui mène souvent pas grand-chose, quoi. Donc bon, c'est quand t'as une défense compacte, t'es un peu obligé de faire ça, quoi. Malheureusement. Et là, c'était le cas.
Ouais, surtout qu'on manquait de création avec Blas dans les 30 derniers mètres. Ou avec Achille. Oui, aussi, ouais.
Et alors après, il y a un truc aussi, c'est que on a parlé de Laurent Abergel dans l'avant-match. Laurent Vergel qui a fait, à mon sens, un très très bon match aussi, ce qui n'a pas rajouté au fait que c'était déjà compliqué pour le milieu de terrain nantais, quoi. Voilà, donc pour moi, Lorient a fait son match, nous on est passé un peu à travers, donc le résultat au final, ben, comme disait Jean-Charles, on n'est pas si loin que ça pour un match où on n'a pas fait un grand match et où Lorient par contre a joué sa carte à fond, donc ben, voilà, il va falloir aussi se remettre un petit peu d'équerre. Une question, alors je sais que je vais avoir quelques commentaires où je vais peut-être me faire incendier, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que c'est signal d'alerte là tout de suite? Est-ce qu'on se dit oula, ça va pas bien? Parce que je vous rappelle juste pour ceux qui n'ont pas vu, et si vous l'avez pas vu, je vais vous miner un petit peu le moral, mais les trois prochaines rencontres, c'est Lens, Monaco et Rennes. Alors, je parle en championnat, bien sûr, sans parler de la Coupe d'Europe. Ces trois matchs-là, avec deux matchs de Coupe d'Europe au milieu, est-ce que là, on ne se dit pas que finalement, c'était une bonne occasion de lancer véritablement la saison en Ligue 1 et que les trois matchs qui arrivent, ça va être chaud?
Alors, j'ai regardé, moi, le calendrier un peu plus loin que toi. J'ai été regarder le calendrier du mois de novembre, où là on va enchaîner Auxerre, Ajaccio et je sais plus quelle équipe, trois équipes qui sont intrinsèquement plus basses que nous. Mais comme tu dis, les trois qui viennent, il va falloir faire une réflexion, notamment par rapport à la compo de Karabag, pour déterminer quel est le match le plus important de la semaine, quoi. Parce que c'est sûr que
Jean-Charles, toi, je te mets dans la peau d'Anton Comboiré. Tu vois que les prochains matchs, là, donc c'est Karabag jeudi prochain, et derrière, tu enchaînes Lens et Monaco avant de
jouer le
Ouais, bah moi je privilégie le je vais pas dire que je mettrais une équipe mixte à Karabakh, mais pas loin, hein, parce que je sais pas à quelle heure ils vont rentrer, il me semble qu'il y a 8 heures d'avion. Donc le match est à 18h45, je sais pas s'il y a un décalage horaire, peut-être d'ailleurs. Ils vont pas rentrer avant le vendredi midi, on va dire, en 9h-10h, et ils rejouent à 17h samedi. Donc les joueurs vont pas être frais, clairement. Donc moi, à sa place, pour revenir à ta question, j'essaierai d'incorporer. Faudra voir si Moutou Sami peut jouer, mais je mettrai bien Doucet titulaire, Korchia. Je ferai rentrer 2-3 joueurs. C'est comme pareil que faire rentrer Kader Bamba à la 90e. Hein,
Oui, ça n'a pas trop de sens pour moi, mais bon, je trouve dommage qu'on ne le tente pas un peu plus parce qu'il apporterait un peu de percussion et je trouverais ça pas mal sur des fins de match, enfin, dernier quart d'heure ou dernière 20 minutes. Sachant qu'une chose importante, c'est qu'entre Lens et Monaco, il y a 2 semaines, hein, puisqu'il y a la trêve. Donc, est-ce que ça ne permettrait pas aussi de régénérer un petit peu certains organismes?
Ouais, mais enfin entre les deux matchs, moi, il va pas pouvoir choisir forcément parce qu'on doit les faire ces deux matchs. Mais prendre un point à Karabakh, ou je pense qu'on peut même gagner avec une équipe un peu remaniée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour se mettre la tête tranquille et pas avoir des sueurs froides. Fallait gagner à Lorient, bon là on le fait pas. Donc on reporte cette pression sur le championnat pour le prochain match mécaniquement, quoi.
Ouais.
Donc c'est compliqué, hein.
Ouais. Morgan, toi tu privilégierais l'Europa League ou le championnat avec les trois gros matchs qui nous attendent?
En fait, contre Fribourg, limite j'accorderais au FC Nantes de perdre, tu vois, genre en mode je mettrais une équipe balèque, tu vois ce que je veux dire. Par contre, contre Karabakh, pour moi on doit perdre 2 points puisque c'est là où on doit choper 3 points, d'accord, parce que contre Fribourg de manière générale, de toute façon on est censé perdre. Pour moi, c'est une très très bonne équipe. Ça va être très compliqué d'aller chercher en plus chez eux. Donc contre Karabakh, pour moi, il faut, si on veut espérer passer les poules et continuer sur la bonne lancée, il faut qu'on gagne contre Karabakh.
Quitte à hypothéquer un peu le résultat contre Lens ou laisser trop de force.
Bah, au pire, on perd contre Lens et on va chercher quelque chose contre Monaco, quoi. Après, c'est vrai que Lens, c'est à domicile. Tout le monde, les supporters comme les joueurs, ont en tête l'exploit qu'on avait fait la dernière fois. Il va y avoir, et on sait très bien qu'à la Beaujoire, quand il y a toute la Beaujoire qui se met en feu, ça aide vraiment les joueurs. Et ça, c'est quelque chose que je parle à chaque space. Pour moi, le mental, c'est limite, enfin, aussi important, voire plus important que le physique ou les capacités d'un joueur. Parce que là, moi, ce qui me fait peur, c'est que si contre Lens, on prend pas de points, contre Monaco, on prend pas de points, contre Rennes, on prend pas de points, je vais vraiment dans le pire des cas. On est dans la zone rouge, on est dans les 4 derniers, et dans la tête, dans la presse, et dans l'accumulation, dans la tête des joueurs, ça va pas aller. Et ça va être un cercle vicieux, et qui va faire que ça va être du grand n'importe quoi, on va commencer à titrer des trucs de ouf. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que psychologiquement, alors que en vrai, comme tu l'as dit, Jean-Charles, derrière, le calendrier, il n'est pas si dégueu. On joue des petits, comme Auxerre, qui je crois, se font taper 4-0, je crois, en ce moment. Il y a vraiment moyen de gagner beaucoup de points et de se rattraper. Bah, psychologiquement, vu que derrière, on est en bas de classement, dans la tête des joueurs, ça va être compliqué, en fait. Ça va être très compliqué. Moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est l'aspect
psychologique. Ça finit à 5. Ça a fini à 5, juste au passage.
Ouais, d'accord. C'est l'aspect psychologique des choses, moi, qui me fait peur. Après, de toute façon, on en parlait déjà dès la victoire de la Coupe de France l'été dernier, enfin au mois de mai, mi-juin. C'est que de toute façon, ça va être compliqué, hein, physiquement, quoi qu'il arrive, de manière générale, ça va être compliqué. Voilà. Bon, voilà, faut. Pour moi, Karabakh, il faut aller chercher des points. Faut vraiment analyser pour savoir s'ils sont si mauvais entre guillemets que ça, tout en étant respectueux envers eux, mais pour estimer mettre une équipe B contre eux et aller chercher une victoire, quoi. Je sais pas du tout ce qu'ils valent. Je peux même pas me. Mais pour moi, c'est important de choper 3 points contre eux parce que derrière Fribourg, faudra un miracle pour choper les 3 points contre eux, quoi. Donc voilà.
Ouais. Ouais, bah en tout cas, ouais, c'est vrai que ça va être très compliqué les prochaines semaines. Mais bon, on va continuer à faire confiance à Antoine. Jusqu'à présent, ça nous a plutôt pas mal réussi, donc on va voir. Il va être capable de nous sortir la tête de l'eau. Pour le dernier quart d'heure, du coup, Morgan, on va faire un point rapidement sur deux choses. D'abord, on va parler de ce TikToker qui enflamme les réseaux. Je te laisse en parler.
Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, effectivement, il y a un TikToker qui a 200 000 abonnés là sur TikTok et à peu près 20 000 abonnés sur Instagram qui cartonne avec une reprise cover acoustique guitare de l'hymne de la Beaujoire. Parce que lui, c'est un grand supporter du FC Nantes depuis petit. Pourtant, il n'habite pas, bah, comme nous d'ailleurs, Aymeric, hein, en région nantaise. Il habite dans le 17, du côté de la Charente-Maritime. Et son papa est aussi un fervent supporter du FC Nantes depuis tout petit. Donc du coup, c'est vraiment le lien familial qui est fort derrière tout ça. Et son rêve, c'est de rejouer ce titre au milieu du stade de la Beaujoire, qu'importe dans l'année, tu sais, à la guitare, etc. Et donc du coup... Alors je sais que Jean-Charles a été vite fait en contact avec lui pour essayer de faire une demande. Après rien n'est fait. Ça serait une belle histoire. Jean-Charles Verdal. Oui, voilà, exactement, Jean-Charles Verdal. Après, je sais que rien n'est fait. Je sais que ça serait lui. À chaque fois que j'en parle avec lui dans le vocal, il me dit que ça serait un rêve, ça serait merveilleux que ça arrive. En tout cas, il est extrêmement content. Alors pour ceux qui l'ont fait, il est extrêmement content des commentaires qui ont été mis sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre Facebook Tribune Nantaise ou sur son TikTok à lui. Le nombre de commentaires, il m'a dit mais c'est ouf la communauté nantaise, comme elle est dingue, ultra positive. Franchement, c'est fou cette histoire. Donc du coup, voilà, ça c'est la première belle histoire qui peut se terminer en apothéose si derrière ça se goupille bien et qu'il puisse chanter au milieu du stade de la Beaujoire, le fameux hymne. Et la deuxième histoire, vous la connaissez déjà, elle concerne le Dakarois Ndiawar. Lui est un supporter du FC Nantes du Dakar, qui a 36 ans. Et qui, je pense, on peut le dire, est le plus grand supporter du FC Nantes là-bas, et qui depuis toujours rêve d'aller à la Beaujoire voir un match. Le problème, c'est que vous le savez, il est né au Dakar, etc. Et c'est compliqué pour lui d'avoir un visa touriste pour venir en France. Donc du coup, il y a eu toute une mise en place qui a été faite pour se cotiser. Les supporters sont cotisés pour lui payer son billet d'avion, etc. Toute l'organisation, la partie financière, c'est OK, mais la partie visa, c'en est une autre. Alors, je remercie Maxime, qui est lui aussi au Dakar, pour le travail qui l'a aidé sur cette démarche-là pour essayer de récupérer ce visa. Et j'ai des nouvelles concernant ça, puisque je lui ai écrit, pas plus tard qu'aujourd'hui, il me semble. C'est ça, aujourd'hui, il m'a donné des nouvelles. Il m'a dit, la mairie doit nous faire un retour début de semaine sur leur avancée pour l'aide au visa. Et là, je me dis, OK, donc ça veut dire qu'il a fait le dépôt du truc. Et là, il me dit... en fait, normalement, c'est impossible de déposer un dossier avant le mois de janvier. Alors qu'à la base, souviens-toi, ils étaient censés venir bientôt là pour un match dans un ou deux mois, je crois. Et là, il me dit ça. Il me dit, c'est justement sur ce point que la mairie va essayer de nous aider. Donc, il sait que la mairie est en train d'essayer de l'aider pour obtenir ce visa, d'accord. Mais en tout cas, normalement, ils n'ont pas le droit d'ouvrir un dossier avant le mois de janvier. Notamment, c'est censé être hyper long, quoi, encore une fois. Donc voilà, on aura plus de nouvelles la semaine prochaine. En tout cas, il m'a dit que voilà, la démarche a été entamée, qu'ils en ont discuté avec la mairie et qu'ils attendent voilà des réponses prochainement. On va croiser les doigts. Et je pense que tout ce qui a été mis en place sur les réseaux sociaux, tous les messages, etc., je pense qu'il aura partagé tout ça et qu'ils ont vu l'engouement, la belle histoire et que ça peut aider, honnêtement. Voilà. Donc, on croise les doigts aussi.
Ouais, et n'hésitez pas à continuer de partager cette info-là en masse. Plus il y aura de retweets et de partages, et plus il y aura de possibilités de le faire venir. C'est vrai que j'ai discuté un petit peu moi avec lui en message privé. Il connaît. Alors tu disais que c'est le plus grand supporter du FC Nantes au Sénégal. Et je vais même aller plus loin que ça. Je pense qu'il est même plus supporter dans l'âme que certains en France, parce qu'il connaît des joueurs jusqu'au U19 et tout ça. Il est capable de les reconnaître dans la rue. On avait parlé de cette histoire où il avait reconnu un jeune en vacances au Sénégal. Donc, il est vraiment passionné. Donc, ça serait une formidable histoire. Je trouve qu'on est dans un moment là, avec depuis qu'Antoine Camboré est aux commandes du club, je trouve qu'on est dans un moment assez émouvant entre ce qu'on vit sur le terrain et en tribune. Encore une fois, d'ailleurs, un gros big up, comme on dit, à la tribune Loire qui a enflammé la Beaujoire une fois de plus. Et Jean-Charles Verdal nous avait dit que c'était une des plus belles ambiances qu'avait eu depuis des années à la Beaujoire. Donc ça, plus la victoire en Coupe de France, plus cette histoire-là, ça serait, je trouve, un retour un petit peu aux sources du FC Nantes, malgré tout ce qui se passe et tout ce dont on sait, voilà, tout en haut.
Mon avis là-dessus, Émeric, c'est que à défaut de pouvoir être derrière une entité qui est le FC Nantes de manière générale, derrière le club, puisqu'on le sait, il y en a beaucoup qui souhaitent depuis de très nombreuses années que la direction change, à défaut d'être derrière, entre guillemets, la direction, je pense que les supporters, et moi le premier, on s'est mis derrière le projet d'un entraîneur. Le projet d'Antoine Camboré, ça rejoint ce que tu dis. En fait, ils se sont mis derrière cette équipe et non plus réellement derrière l'entité générale du club, mais plus derrière Antoine Camboré, ces joueurs-là, cette âme, cette combativité à toute épreuve, qui sont capables, même s'ils perdent 3-0, même s'ils ont l'arbitrage contre eux, de se donner comme des oufs contre le PSG, qui sont capables, un retour en Europe, à marquer à la dernière seconde un but contre l'Olympiakos et gagner 2-1. Voilà, cette équipe-là, cette âme-là, ils sont mis, tous les supporters sont derrière ce projet-là. Et j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux qui disaient qu'Antoine Camboré est dans la même lignée désormais des entraîneurs comme Denouex, etc. Et pourquoi pas ? Faut voir encore sur la durée, sur le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui nous a apporté une Coupe de France qu'on n'avait pas eu depuis de très nombreuses années. En tout cas, des joueurs et une combativité, une mentalité vraiment au top. Et ça, on peut que le remercier en espérant que ça dure et en espérant qu'on sera maintenu cette année. Moi, je veux même pas un top 10, je m'en fous, je veux qu'on soit maintenu dans un premier temps et qu'on fasse un beau parcours en Europe. Moi, c'est ce qui m'importe le plus. En tout cas, je suis très fier quand... je regarde W9, moi j'ai pas eu la chance malheureusement d'être dans le stade. Putain, mais quand ils en ont parlé à la télé, j'avais des frissons quoi. Ils en parlaient comme si c'était le Paris Saint-Germain pour la première fois quoi, tu vois. Genre vraiment, j'étais en mode, mais putain, enfin, ils parlent du FC Nantes, ils replacent l'historique du FC Nantes, ils ont refait l'historique comme quand on était un grand club et qu'aujourd'hui, ça y est, ils sont en retour en Europe. Et la joie de, tu sais, la montée d'un commentateur quand il est hyper content, quand il y a un but. Putain, mais c'est... Quand on regarde la Ligue 1, ça n'arrive jamais concernant le FC Nantes. Là, il y a eu le premier but de Ganago. On avait l'impression que c'était mon petit frère qui marquait à Poitiers. Il s'en battait les couilles. Par contre, là, sur W9, contre l'Olympiakos, sur le but du coup de Mohamed, mais c'était la folie, quoi. Sur W9, la fierté, quoi. La BL, la Brigade Loire, la Tribune Loire, on n'entendait que ça à la télé. C'était un truc de ouf, mec. C'était un truc de ouf, mais la fierté, quoi. Des frissons, c'était vraiment génial. Et ça... cette année, c'est vraiment génial. Enfin, cette année et l'année dernière, c'est la continuité. Donc, effectivement, tous derrière ce projet qui est l'entraîneur et son équipe. Voilà, c'est mon avis en tout cas.
Ouais. Belle déclaration de Morgan à la tribune Loire et à Antoine Camboré. Jean-Charles, ouais, tu voulais réagir par rapport à ça ?
Non, mais je rejoins à 200% Morgan. Sur Canal+, pareil, hein, ils étaient comme des fous, les commentateurs. Alain Roche qui a crié comme jamais sur le dernier but de Guessant. Après, comme tu le disais, hein, le but c'est d'être maintenu, mais avec un tel effectif, c'est sûr que si on a eu ces 2-3 joueurs en plus, c'est là où on peut encore en vouloir au Kita, malheureusement, hein, parce qu'il a fait le cacou le lendemain de la finale de la Coupe d'Europe en disant qu'il allait investir. Malheureusement, c'est pas le cas, donc j'espère qu'on va pas trop griller d'énergie sur cette fameuse Coupe d'Europe. Hein, mais je ne vois pas descendre clairement avec ces joueurs-là, c'est pas possible. Et puis avec ce coach, hein, en sachant que il faudrait pas que Kita aussi commence à avoir des sueurs froides si on se retrouve avec 6 points alors qu'on si on perd par exemple contre Lens ou Monaco, parce qu'il pourrait avoir des idées stupides qui seraient de limoger Camboré, de remettre un coach qui sortirait de nulle part quoi.
Ouais, un Roland Courbis quoi.
Ouais, ou un pompier de service à l'Antonetti ou je ne sais quoi, mais t'as raison. Hein. Ouais, on en a vécu, mais t'as raison à 200%, Morgan. Il y a une vraie. Moi, j'avoue aussi, hein, je suis Nantes depuis très très longtemps et j'ai vécu de grandes choses et je sens, bah, notamment en participant à ces Space, hein, que la flamme est un peu plus forte en ce moment parce que il y a quelque chose qui se passe. Alors même dans la défaite, on est déçu, mais on est avec eux, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord avec vous et c'est vrai que voilà, ça fait plaisir de revivre tout ça. Alors il manque pas grand chose et on sait un petit peu ce qui manque, hein, de toute façon pour que ça prenne encore plus. Mais c'est vrai que l'idée d'Antoine Comboiré et comment dire l'alchimie qu'il y a entre Comboiré et ce groupe là, on se dit putain c'est vraiment dommage qu'il y ait pas le petit plus qui ferait que voilà que ça prendrait encore plus, voilà. Mais c'est pas de la faute ni du staff ni des joueurs ni des supporters, voilà.
Pour moi l'image, j'aimerais qu'il résume tout ce que tu viens de dire et ce qu'on vient de dire, c'est que un mec comme Ganago qui vient d'arriver, hein, il marque son premier but, il vient serrer dans ses bras, il y a des screens partout sur Twitter, Antoine Comboiré, je te dis, comme si c'était son père, et il dit en conférence de presse à la mi-temps, il dit purée, j'ai retrouvé un club qui a envie de moi, quoi, qui a envie que je joue. Ouais. Hein, un petit message passé au RC Lens, je crois, un petit coup de pied comme ça, tu vois. Mais j'ai trouvé ça beau, tu vois, ça résume que le mec, il est là depuis quelques semaines à peine, et il adhère totalement à Antoine Comboiré, à l'homme, à son projet, à sa combativité, et à ce qu'il a réussi à créer, à la cohésion d'équipe, quoi. Tu vois, ça résume le mec, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que cette image-là, en si peu de temps, ça résume beaucoup de choses, vraiment.
J'ai un message, on va terminer là-dessus, de Diawar sur un message privé qui nous remercie de parler de lui. Donc comme je te l'ai dit en message privé, on continuera jusqu'à ce que tu puisses venir. C'est aussi ça l'esprit du FC Nantes. Et donc on va pas te lâcher comme ça, en tout cas. Il y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas encore une fois vraiment à retweeter et à repartager tout ce que met Maxime, par exemple, notamment, mais d'autres. Hein, on pense aussi à Titi d'Active Nantes. Voilà, d'autres aussi. Hein, moi je le fais aussi de temps en temps. Donc n'hésitez pas à retweeter tout ça. Ça fera que du plus pour cette belle histoire. Les gars, on va se retrouver du coup, alors on verra quand exactement, mais je pense très certainement jeudi avant le match et jeudi après le match, puisque là on joue à l'extérieur et c'est peu de le dire puisqu'on va être très très loin même de la maison. On va se retrouver pour ce match-là. Pour l'avant-match et pour le débrief, on aura la présence de Sébastien Piocelle qui reviendra nous donner un petit peu son avis sur ce match-là, match qu'il commentera d'ailleurs, donc on va faire en sorte d'écouter Sébastien Piocelle pour ceux qui pourront, et pour ceux qui pourront pas, vive le streaming, voilà, tout simplement.
Émeric, une dernière chose pour ceux qui veulent, parce qu'on en parle très peu finalement, pour ceux qui cherchent le podcast de cette émission, le Space, que ce soit l'avant-match, l'après-match, etc., vous avez juste à taper dans Spotify ou même dans Google tout simplement, Space FCN. Vous trouverez tout de suite. Hein, vous tapez dans Spotify, Space, espace, FCN. Vous trouverez tout de suite. Vous verrez la tête d'Emery. Vous pouvez pas le louper. C'est la même photo que sur Twitter. Vous trouverez très facilement. Parce que je sais qu'il y en a qui t'ont posé la question, Emery. On peut pas faire plus simple. Voilà.
On va terminer aussi sur un autre message de Exo. Morgan parle super bien, on sent bien que c'est un réel supporter du FC Nantes, j'adore. Tu vois, t'as même des fans là, dans ce space, Morgan.
ça fait plaisir, c'est gentil, merci.
Jean-Charles, ton heure viendra, tu vas voir quand ça arrive, ça va pas te lâcher. Mais déjà, moi je peux te dire une chose, Jean-Charles, c'est que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un comme toi, voilà, qui suit Nantes depuis des années et avec qui on peut
parler. C'est réciproque. Voilà. Le plaisir est partagé, que ça soit dans la défaite ou la victoire, même si on préfère les soirs ou les lendemains de victoire, mais on va continuer à les soutenir parce qu'ils le méritent, en fait, comme disait Morgan, hein, dans son long plaidoyer qui, je pense, où beaucoup de Nantais se retrouvent.
Bien sûr, et on aura bien sûr des victoires, ça, on le sait, donc on en profitera. Merci Morgan, merci Jean-Charles, merci à tous ceux qui ont écouté, merci à tous ceux qui suivent régulièrement le space. Voilà, c'est cool parce que c'est vrai qu'il y a des têtes qu'on voit de plus en plus souvent. Et un petit coucou à Pierrick qui a des moments un peu compliqués en ce moment, très compliqués, mais voilà, qui écoute assez régulièrement le space et qui écoutera très sans doute en podcast. Donc pareil, Pierrick, on est ensemble. Il y a pas de souci. Bonne soirée les gars, bonne fin de week-end.
Bonne soirée.
Europa League.
Salut. Oui. Ça sera pas le match le plus important de la semaine, mais quand même.
Exactement.
Salut. Non, mais on va taper Lens. Oui. On va y croire. On va faire un bon match à Karabag avec les jeunes. But d'Achi, but de Doucet, et puis on gagnera avec doublé de Ganago contre Lens. Parce qu'il a envoyé le petit message, comme a dit Morgan.
Bon, avec ça, si on gagne pas, je comprends plus rien, moi.